Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Pour moi, c'est cohérent, j'ai envie de te dire. Ils s'invectivent sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est des rappeurs avec un côté street. Ils se croisent, ça pète, c'est normal. Ouais. C'est plus normal que ça pète
mais
en fait, ils se croisent,
mais
l'inverse de nocif, c'est que c'est positif. Est-ce que c'est positif?
Mais c'est ni nocif, ni. En fait,
c'est l'un et l'autre.
On fait pas du piano, c'est pas de la musique classique, les gars. En vrai de vrai.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé, était branché sur Deal et Terme. Aujourd'hui on va parler des clashs dans le rap français et on va se poser la question, est-ce que les clashs, dans sa globalité pardon, sont nocifs pour le rap français? Alors pour ça j'ai l'équipe de choc habituelle, ça va quoi les gars?
Ça va toi? Cool.
Tranquille. Bon, on va commencer direct avec la question, on va mettre les pieds dans le plat.
Direct hein.
Voilà, et là je dis bien les clashs, c'est très général et ensuite on va rentrer dans les détails. Est-ce que les clashs sont nocifs pour le rap français?
Moi, tu me regardes, donc je commence.
Ouais, parce que tu as vécu
l'homme des clashs.
Le responsable de pas mal de conneries. Vous mentez, c'est totalement faux et je vais le prouver aujourd'hui.
On attend la réponse.
Pour répondre à la question, je te dirais non, ça fait partie de la culture.
Ok, ça fait partie de la culture, d'accord. Ouais.
Moi, okay. Je dirais que c'est nocif.
C'est nocif?
Ouais.
Ok.
On perd plus qu'on gagne.
Bah, explique. Moi, je veux bien savoir.
Les artistes, en fait, quand on dit l'image du rap français pâtit des clashs, parce que les gens qui sont à l'extérieur comprennent pas que c'est une culture et captent pas pourquoi t'as des mecs qui se battent dans un aéroport ou qui bloquent un festival, tu vois. Et le deuxième truc où je dis que c'est négatif, c'est qu'en fait, je pense que les artistes, ils disent ouais, grâce au clash, genre plus de visibilité. Et en vrai, je pense qu'ils perdent tous. Ils gagnent en visibilité, mais ils perdent en vente, en stream, en tout ce que tu veux.
Ok.
Voilà.
Très bien. Et vous en pensez quoi?
Moi, j'aurais dit ça dépend des époques, en fait. Je pense qu'il y a une époque où c'était très ciblé aussi sur la musique et c'était des punchlines de rap et tout. Après, quand ça va trop loin, effectivement, ça va se battre et tout et que c'est de médiatiser tout ça. On parle de jugement et tout, tu vois. Ok, ça peut, oui, effectivement, devenir nocif. Mais sinon, à la base, c'est quelque chose, ouais, ça rentre dans la culture, en fait. C'est des clashs par son, par punchline. Et en fait, ça a alimenté le game depuis toujours, en fait. Enfin, ça alimente le game depuis toujours. Et c'est ce qui faisait aussi la richesse du rap français, les histoires, et ça fait des morceaux mythiques du rap français aussi qu'on peut pas enlever. Et puis, en même temps, quand ça va trop loin, jusqu'à aujourd'hui, dans l'époque plus actuelle, en tout cas, là, les clashs, ils veulent plus dire grand-chose, entre guillemets.
Pour préciser un truc, effectivement, moi, je parle plutôt des 10 dernières années, tu vois.
Ouais, alors là, je te parle vraiment dans la globalité,
ouais.
Pour le coup.
Mais du coup, je prends quand même cette réponse-là, parce qu'en vrai, si on regarde à l'heure d'aujourd'hui, c'est nocif, tu vois. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, c'est nocif.
Ok.
Même si globalité ou pas, en vrai, à l'heure actuelle, ça l'est ou pas.
Ouais. Tu vois. Chronica.
Moi, je dirais oui et non. Effectivement, ça fait partie de la culture. Ça ramène de la visibilité. Il y a quelque chose à raconter. Il y a du storytelling. Et puis, il y a l'aspect compétition qui a toujours existé dans cette musique. Mais non, parce qu'en vrai, en tout cas, il y a eu des périodes où ces histoires de clash, ça prenait le pas. En fait, il restait plus que le storytelling. Mais musicalement, en fait, on parlait presque plus de musique. Et quand on est là-dedans, moi, ça me parle plus. Tu vois.
Mais justement, parce que là, quand on regarde au début du rap, on va dire dans les années 2000 jusqu'à 2010, il y a eu pas mal de clashs qui ont été enregistrés, avec des clashs qui sont devenus mythiques. Je sais pas moi, Carton Rose, le morceau de Rof dans La Fierté des Nôtres où il répondait à MC Jean Gabin, etc. et à toute la team. Franchement, il y avait des morceaux, il y avait des trucs qui étaient produits. Mais à partir de quand, selon vous, il y a eu une bascule?
Moi, je pense déjà qu'il n'y a pas forcément eu de bascule réelle, c'est juste que les clashs, la forme des clashs ont évolué. Et je pense qu'il faut différencier les clashs courts où il y a des petites piques et qui se sont vite finis, et les clashs beaucoup plus longs et qui sont allés beaucoup plus loin. Par exemple, t'as du Booba Rof, Booba Caris, qui ont été assez longs et assez loin. Il y a aussi L.I.M. Zoxy, il me semble, à l'époque. Ouais. Il y a eu Tizito Cynic. Après, chacun
avait... La Fune Camel Ancien.
Voilà, La Fune Camel Ancien, c'est des clashs assez longs, etc. Après, de l'autre côté, t'as eu des clashs qui étaient beaucoup plus... je vais pas dire courts, mais qui se sont... réglé assez vite, ou je dirais même pas clash, des oppositions. T'as eu du Ice MC Niro, après ils ont dit qu'ils sont vus, je crois que c'est Ice MC qui avait fait une vidéo. Il y avait aussi Gizmo Nekfeu par pique interposé, mais ça s'est réglé assez vite. Déjà, il y a différentes typologies d'opposition ou de clash. Déjà, première chose. Et après, je pense qu'aussi, les réseaux ont créé une nouvelle caisse de résonance. Avant, c'était les DVD. Il y avait Menace Rap & Trap, Reality Mag, Focus Street Live aussi, des fois, ça répondait au clash. En fait, ça faisait partie de la culture et c'était normal. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu avais beaucoup d'artistes qui avaient cette street crédibilité. Et c'était important. Quand on parle de toi ou quand il y a un truc, quand on parle de toi, c'est important que tu réagisses.
Ouais.
Tu vois, tu peux pas laisser les choses comme ne rien faire. C'est impossible. Un tel, il a parlé de toi dans un titre, t'es obligé de réagir. Tu vois, on va venir te voir et c'était assez logique.
Exactement, mais ça, c'est... en fait, avant, tu pouvais aller les voir et leur demander clairement pourquoi tu te clashes avec lui, quelle est la raison, qu'est-ce que tu penses de la réponse de l'autre, et ils pouvaient te répondre normal. Aujourd'hui, tu peux même pas en parler, c'est tabou.
Et c'est ça, parce que... il y avait une parole libérée, je suis d'accord avec Cine. Un tel, il a parlé de toi, mais t'es obligé de répondre, tu peux pas ne pas répondre, ça n'existe pas, tu vois. Et après, je pense que les intérêts commerciaux sont arrivés, l'argent, le fait que ça se professionnalise, donc ça a un peu aseptisé la communication.
Mais il y avait pas une économie déjà autour des clashs.
Je pense que c'est la question que tu posais de à quel moment ça a changé. Je pense qu'en vrai de vrai, si on doit le dater en rap français, je pense que c'est au niveau des clashs où il y a eu La Fouine Boubarov en 2012, parce que notamment ce qui se passait avant, c'est qu'en fait, quand tu voulais t'exprimer sur un clash, c'était soit en interview. Mm-hmm. Et donc, du coup, tu maîtrises pas forcément ce que la personne te pose comme question. Mm-hmm. Soit tu faisais un freestyle, soit tu faisais un morceau, tu vois.
Ouais.
Donc, en gros, c'était un peu. Déjà, la temporalité était différente. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu voulais clasher quelqu'un, bah, entre le moment où tu sors ton album, enfin, tu vois, genre, il y avait du temps entre les deux, tu vois, tu réagissais pas au quart de tour. Mm-hmm. Et quand tu en parlais dans les médias, effectivement, c'est des mecs qui venaient te voir en disant. Pourquoi t'as parlé sur lui, tu répondais, tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles, mais déjà en 2012, c'est le moment où les mecs ont commencé, Booba et La Fouine ont fait chacun une vidéo interview que eux-mêmes ils ont fait, tu vois. Et ça, ça changeait un peu les choses. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont sorti une vidéo un peu nulle part pour répondre au clash, où ils répondaient à quelqu'un de leur entourage qui posait les questions. Et je trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un petit changement où en fait les mecs se sont réappropriés les clashs, que c'est sorti un peu de musical, même s'il y avait encore des morceaux, mais que les réseaux sont rentrés en compte, etc. Et du coup, la rapidité des clashs a augmenté. Et que c'était beaucoup plus dur à suivre. C'est genre, par exemple, si tu reprends le clash, genre Nesbill Medine, le truc qui a duré sur des années, parce que tu répondais quand t'avais un planète rap, quand t'avais un truc, ça mettait une éternité à répondre, tu vois. Que là, il l'aurait fait aujourd'hui, ça aurait été, j'aurais fait 3 tweets, 4 trucs, et soit ce serait arrivé.
Mais finalement, juste, je finis là-dessus, mais quand tu regardes aujourd'hui les artistes et toute l'attention qui est générée, parce qu'avant, effectivement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait, comme tu disais, les freestyles, les singles qui sortaient, etc. Il y avait aussi Menace sur la planète rap, toutes ces choses-là. Finalement, quand même, il y avait de l'attention, il y avait de l'engouement autour du rap français.
Il y en a toujours, aussi.
Donc,
toujours.
C'est ça. Mais est-ce que déjà, alors déjà, il y avait ça. Aujourd'hui, lorsque, je sais pas moi, un Booba va faire un tweet ou va faire une story, etc., finalement, ça crée de l'attention. Est-ce que finalement, ça, c'est pas quelque chose de positif, le fait qu'il y ait de l'attention, de l'engouement, de l'engagement?
Non, parce que c'est. En fait, ça fait du bruit. Et il y a même des gens en rap qui le voient. Beaucoup plus, à mon avis, qu'à l'époque de Menace sur Planète Rap, où en gros, il fallait avoir le DVD et tout. En vrai, c'était dans le microcosme du rap, tu vois. Les clashs, c'était beaucoup plus compliqué à capter, tu vois. Là, en vrai, dès que Booba va faire un tweet, t'as des gens en rap qui vont en parler. Tu vois, moi, je le vois, mes potes vont me dire, ouais, t'as vu, il a dit ça, alors qu'ils écoutent même plus de rap, tu vois. Et donc, oui, ça fait de la visibilité, mais. Contrairement à ce que beaucoup disent, je suis pas sûr que la visibilité soit toujours bonne. C'est quoi les négatifs?
Toute l'attention n'est pas
bonne.
Mais après, est-ce que le sujet, c'est de savoir si c'est bon ou mauvais? Après, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'image, etc. Mais quand tu vois même en politique, il y a parfois aussi des politiques qui s'opposent, qui font des gamineries sur les réseaux sociaux, sauf que ça va pas jusqu'à l'altercation physique. Mais par exemple, comme tu me dis, ouais, t'es Orly, ça donne une mauvaise image. Moi, j'aime pas trop cette. Même si je comprends où tu veux en venir.
En fait,
pour toi, ça donne une mauvaise image sur le rap en globalité.
Pour moi, c'est cohérent. J'ai envie de te dire, ils s'invectivent sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est des rappeurs avec un côté street. Ils se croisent, ça pète, c'est normal. C'est plus normal que ça pète pas.
Mais en fait,
ils se croisent, mais
on va pas se. L'inverse de nocif, c'est que c'est positif. Est-ce que c'est positif?
Mais c'est ni nocif, ni.
C'est l'un et l'autre.
On fait pas du piano, c'est pas de la musique classique, les gars. En vrai de vrai.
Non, Kersh, il a raison. À un moment donné, les gars, vous vous croisez, c'est normal que ça pète. Ça fait un moment que vous vous cherchez, il y a des morceaux, il y a des tweets, il y a des machins. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça prend tellement de place. Alors, à l'époque, effectivement, ça prenait de la place, mais c'était pour les aficionados, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir les teams machins, les teams trucs, et en fait, les gens s'embrouillent même à la place des artistes. Le public s'embrouille entre eux, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle l'époque Booba La Fouine. J'ai un petit cousin, machin, il me disait, mais genre, ça s'était pétard dans son lycée. Des pros, La Fouine, des pros Booba, machin.
Est-ce que
parle musique, les gars?
Non, mais parce que regarde, on parle musique et tout, mais moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ça peut pas devenir comme un match de catch, tu vois? On est dans l'entertainment pur. Est-ce qu'il y a pas un truc qui peut être contrôlé là-dessus?
Non, mais c'est risqué, ça.
T'as deux artistes qui se détestent. Ok, ils font de la musique et ils en font un business à un moment donné. En disant, ok, un tel va répondre, un tel va répondre.
Voilà,
mais est-ce qu'on peut pas. Vous avez écrit ce point, vous avez
ils ont pas tort. C'est que en fait, en soi, sur le papier, ce que tu dis, c'est assez cohérent. On est un peu l'entertainment américain, etc. Mais le truc, c'est que quand tu regardes bien, ça peut dériver en fait. Il y a des effets de bord que tu maîtrises pas. C'est-à-dire que en soi, par exemple, quand on parle d'Orly, moi, je te dis clairement que c'est logique que ça démarre. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui auraient pu être blessés qui n'ont rien à voir. C'est qui est dommageable. Mais en soi, quand je te parle d'effets de bord, il y a des choses que tu peux même pas maîtriser en soi. Après, t'avais l'affaire de la boutique qui était un peu liée en soi, mais qui n'était pas directement liée non plus, tu vois. Mais c'est des effets de bord que tu peux pas contrôler. Donc l'entertainment, ouais, mais jusqu'où? Alors que les Américains, ils ont cette faculté. Et pas tout le temps, en vrai, quand tu regardes leur passif, en vrai, ils ont cette faculté à bien cadrer les choses.
Peut-être plus de second degré.
Disons, alors.
Oui. Après, on va répondre qu'il y a eu des morts aussi.
C'est pour ça qu'il y a des exemples et des exemples.
Ouais, voilà. Mais disons, bah, tu parlais tout à l'heure de Booba et de ce qui s'est passé à l'aéroport avec Harris, mais derrière, quand même, t'as Booba qui avait proposé des combats. Des vrais combats de MMA, etc. À un moment donné, je trouve que c'est faire passer les clashs à un autre niveau, c'est OK, on se déteste. Mais à un moment donné, on peut faire du business ensemble. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans le rap français, il va y avoir un moyen pour les artistes aussi? Parce que moi, nous, on parle pour les artistes en général, parce qu'ils peuvent aussi en profiter finalement de ces clashs. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui peut se cadrer? Et est-ce que les rappeurs ne peuvent pas gagner là-dessus en faisant, par exemple, des combats de MMA ou autre?
Moi, je pense que dans l'idée, selon certains artistes, ça peut le faire, ça peut exister. Mais la grande majorité, en vrai, et surtout ceux qui font les clashs, c'est qu'ils viennent de certains endroits, ils ont certains codes. Et faire ce genre de choses, c'est pas dans la mentalité commune. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est on se croise, ça démarre.
Non, c'est pas, un truc que tu peux.
Genre, et en plus, il y a les équipes
mettre sous contrat.
Après, faire du business, des concerts, des morceaux clash, des t-shirts, entre guillemets, tu insultes un peu ton adversaire au contest. Oui, il y a de ça. Mais je pense qu'on sera jamais dans un business un peu en mode entertainment à fond sur ce sujet.
Je suis pas forcément sûr. Je pense qu'aujourd'hui, non, parce qu'en vrai, il y a de la haine. Il y a une vraie haine.
Mais là-bas, c'est toujours ça, en vrai. Là-bas, c'est toujours ça, en vrai. Il y a toujours la haine.
Si demain, t'as un truc un peu plus second degré, ou vas-y, ça s'aime pas trop, mais on a envie d'en profiter pour surfer dessus.
Tu penses à quoi, toi, comme exemple?
J'ai pas d'exemple où ça pourrait
être. Le type d'artiste, plutôt.
J'ai pas forcément d'exemple pour ça, mais je pense que si demain, t'as un truc un peu comme peuvent le faire, tu vois, genre les youtubeurs aux US, soit t'as Logan Paul qui va se bouiller avec des mecs et tout, et il y a un truc beaucoup plus dans le divertissement que là, en vrai, les mecs qui s'embrouillent dans le rap français, il y a quand même un truc où ça se déteste vraiment.
Parce que là, c'est des youtubeurs, donc c'est intéressant. Il y a un truc de rappeur qui est issu de quartier.
Ouais.
Donc ça n'a rien à voir, certes.
Oui, je suis d'accord.
Mais tu connais, c'est notre montage,
c'est notre rôle. C'est pour ça que j'ai du mal à. Après, ça peut peut-être arriver à un moment, tu vois, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir le truc de. Par exemple, l'idée de se dire on va faire un combat en octogone.
Ouais.
Bah déjà, c'était une seule de personnes qui pouvait le faire. Tu vois, la réponse de Carrie, c'était en mode moi, je suis pas un combattant, je suis un rappeur, en vrai, je suis pas un combattant, tu vois. Et en vrai, ça pouvait marcher si jamais ils avaient un peu moins de haine l'un vers l'autre.
Oui.
Parce que là, tu vas, t'es en mode. Enfin, tu sais, tu détestes en mode comme tu dis, vas-y, on se croise et on fera ce qu'il y a à faire.
Mais limite, ils auraient pu le faire peut-être à l'époque justement où ça restait dans le cadre de la musique.
Ouais.
Où tu vois, il y avait encore ce truc un peu enfantin. Voilà, là, on sait que c'est plus du tout ce cas-là, tu vois.
Il faut qu'ils se mettent d'accord en plus, parce que faire un octogone, c'est qu'à un moment, il faut que tu arrives à avoir un niveau de confrontation où tu arrives encore à te parler, à te mettre d'accord sur des conditions. Là, en gros, officiellement, la version, c'est qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur des conditions. Parce qu'à un moment, il n'y a plus de dialogue, tu vois.
Ouais.
Donc, ça ne marche pas.
Ouais. Et toi, Céline, justement, qui manage les artistes, etc., comment toi, tu gérerais, en fait, les conflits de ton artiste avec de tes artistes, avec d'autres artistes? Comment toi, tu le perçois quand ça arrive?
Je pense que j'aurais pas pu le gérer, je pense. Je pense que c'est un truc que tu ne peux pas gérer. Parce que si le mec, il a envie d'aller retrouver un autre gars et se taper, qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais.
Tu vois, à part lui dire, c'est pas bon, effectivement, pour ton image, tu fais quelque chose, fais pas de vidéo, surtout. Franchement.
C'est déjà arrivé sans citer d'artiste ou quoi. Mais est-ce que c'était déjà arrivé d'être dans une situation de stress comme ça où tu te dis putain, qu'est-ce que je fais?
Non, jamais. J'ai jamais eu ce genre de. Non, après, il y a des moments où tu sens que oui, ils ont des tempéraments, donc ça peut peut-être partir loin. Mm-hmm. Mais on n'est jamais allé au bout de se dire là, on s'est vraiment mis dans un sale pétrin où il va falloir que je dégoupille ça ou qu'on est en communication de crise, tu vois. Mm-hmm. J'ai jamais été dans ce stade-là. C'est des trucs qui pourraient arriver en réalité, tu vois. Et en soi, à part être bienveillante envers ton artiste et lui dire voilà, surtout, fais pas de vidéo. Reste dans le cadre de. C'était un truc personnel, alors reste vraiment dans ton truc personnel, tu vois. T'as envie de régler ça personnellement, fais ton truc, mais juste, faut pas que ça sorte dans ton image à toi, en fait, tu vois. Fais-le avec ton prénom perso, tu vois. Ton nom d'artiste, il doit pas être concerné.
Ok.
Moi, c'est ce que je dirais.
Et toi, de ton côté chroniqueur, au vu de ton contenu, qui est pas un contenu qui est très édulcoré, est-ce qu'à un moment donné, les artistes envie d'une confrontation? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation un peu de clash ou de confrontation avec eux?
Non, non, jamais.
J'ai l'impression qu'ils ont compris. Je pense que, après tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution sur les années. C'est-à-dire dans les années 2000, les artistes étaient très sensibles à tout ça. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu plus le jeu. Ils ont compris qu'il y a des gens qui regardent le contenu, qui regardent, qui consomment, des fans, etc., qui vont donner leur avis à un moment donné sur leur musique. Et ils peuvent
l'entendre. En fait, c'est devenu la norme. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis. À l'époque, si quelqu'un avait donné son avis de manière aussi clivante ou tranchée que moi je peux le donner ou d'autres, ça aurait pu être qu'un journaliste papier, par exemple. Ouais. Et là, oui, ça aurait été hyper mal vu. Mais là, aujourd'hui, on est à une époque où n'importe qui peut donner son avis. Donc, à partir du moment, en plus, où tu sens que le mec, il sait quand même un minimum de quoi il parle et si c'est pertinent, je pense que ça passe en vrai, tu vois.
Je pense que Chroniqueur, elle a raison. La différence avec avant, c'est que, comme dit, tout le monde donne un peu plus son avis. Et surtout, je pense que l'élément intéressant, on en avait déjà parlé un peu l'autre fois, c'est que quand tu donnes ton avis et qu'il est argumenté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après peut-être que des fois, Chroniqueur, elle a des tournures un peu marrantes, un peu qui piquent, mais en fait, ça fait partie du jeu parce que c'est argumenté ce qu'il dit. Il y a quand même un contenu, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, il y a un contenu, tu vois. Alors que quand c'est un peu des piques gratuites, ça passe toujours pas, je pense. Sans argumentaire vite, ça passe toujours pas. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque aussi, sur les clashs qu'il y a pu y avoir, j'anticipe ton truc.
Des vidéos légendaires, hasard de situation.
Non, mais c'est vrai, ça nous est déjà arrivé. Voilà, c'est pas de nous. Nous, ça nous est déjà arrivé que des artistes ou des producteurs nous appellent pour ci, pour telle vidéo, sur ci ou sur ça. Nous, à l'époque, surtout quand on a commencé, il y a des choses sur lesquelles on a merdé. C'est-à-dire que. J'ai pas forcément d'idée en place, d'idée en tête, mais c'est déjà que nous, à l'époque, on était beaucoup dans les titres accrocheurs. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, fallait différencier ton contenu.
Ça marchait bien.
T'étais dans la masse, vrai, fallait différencier ton contenu.
La patte rapélite.
Non, mais au moins, nous, on posait les questions que les gens se posent, tout simplement. Ouais. L'autre, il a parlé de toi, qu'est-ce que t'en penses? Elle est simple, la question, en vrai. C'est pas un truc de fou. Moi, je fais que ramener ce que l'autre a dit, on te pose la question, dis-nous ce que t'en penses directement, tu vois. Ouais. Et c'est sûr qu'après, il n'y avait pas cette culture du teasing, de la petite une minute sur une interview de une heure, etc. Le côté tu mets un titre accrochant, il n'y avait pas cette culture, les artistes n'étaient pas habitués, donc forcément ça a créé des choses où ils comprenaient pas un peu notre démarche.
Nous, les artistes étaient frustrés justement quand vous jouiez sur
un peu. Non, c'était pas frustré, c'était plus énervé. Ouais. Ils sentaient piégés, mais ils avaient pas ces codes là aussi d'internet.
Ils avaient peur aussi,
tu vois.
Parce qu'ils disaient que tu sortais les mots de leur contexte alors qu'au final.
Parce que non, en fait, c'est ce que t'as dit. Ouais. Ils étaient pas encore à l'aise avec ce côté, comme vous dites, entertainment ou répondre à un clash, parce que de base c'était les DVD. Des extraits de DVD. Après, c'est sorti après sur Internet. Les DVD sur Internet. Mais après, il y a eu les sites Internet. Il y avait Bouscapé, il y avait Rapélite, il y avait Endaoud, il y avait plein de médias qui relayaient ces choses-là. Tu vois, on en parlait. En fait, nous, on n'inventait rien.
Ils avaient l'impression de répondre à un pote. Quand
ils parlaient. Moi, je pense qu'ils ne maîtrisaient pas l'impact, mais il y avait aussi, je pense, un peu d'hypocrisie. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dis. En fait, nous, nous ne sommes que des caisses de résonance ou des vecteurs de communication. En fait. Après, c'est sûr que l'approche du teaser, t'aimes ou t'aimes pas, mais en soi, c'est ce que tu as dit. On n'a rien édulcoré et on n'a rien monté ou fait en sorte. Justement, nous, on montait quasiment pas.
Oui, non. Mais tu connais ces trucs de dire « j'ai parlé pendant une heure, vous avez retenu qu'une phrase ».
Mais il y a ça. Ouais, mais à un moment donné, c'est que ça fait aussi.
Et je pense que c'est aussi les conséquences. C'est quand tout le monde relaie cette phrase-là, eux, ils se disent « ouais, en fait, on s'est fait un peu piéger ». Parce que du coup, ils captent que ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit. Mais c'est relou pour eux d'assumer, tu vois.
T'as tout dit. C'est relou pour eux d'assumer. Donc c'est facile de se dire que c'est le média.
C'est la faute du média.
En vrai, la question.
Mais du coup, c'est la faute de Rapélite. C'est après, les artistes, ils voulaient de moins en moins parler et se sont plus.
Non, faux, parce que finalement, c'est eux qui créent leur clash entre eux.
Ouais.
Et c'est ce qui est marrant. Regarde, aujourd'hui, il n'y a pas forcément Rapélite qui en parle. Il n'y a pas forcément Bouscapé qui en parle. Ils en parlent, ils se clashent à fond. Il y a les réseaux sociaux, donc c'est pas la faute des médias. Ouais. C'est vous
qui
créez.
Oui, non, mais déjà, je rigole quand
mais,
je dis ça.
Mais c'est vrai, c'est non, mais en vérité, tu rigoles, mais elle est intéressante cette question parce que finalement, c'est vous qui créez parfois des animosités entre vous. Et quand ça pète sur la place publique, on dit c'est les médias. Mais les médias soit relayent et sont parfois des caisses de résonance. C'est vrai, mais c'est vous qui créez ça, vous assumez pas. Et là, comme finalement, il n'y a plus de médias entre les artistes, on voit bien que finalement, c'est vous qui avez des animosités.
C'est les médias, c'est eux qui créent ça parce qu'ils mettent le doigt dans un truc. Et quand tu lui dis, frère, va au bout, ils comprennent pas. Mais c'est eux qui créent ça, mais c'est aussi le public. Parce que de toute même à l'époque, dans les années 2000, les clashs sur les DVD, les machins, de toute façon, pour moi, c'est un truc de bandeur. Quoi qu'il arrive, c'est les gens, ils s'excitent sur les clashs. Mais bien sûr, c'est moi, personnellement,
c'est l'effet divers.
J'étais au courant, je me tenais informé parce que j'avais des potes, ça les faisait gaulerie, nanana. Mais j'ai jamais, par exemple, été très très client du concept des clashs français, en tout cas.
Tu kiffais pas? C'était bien, quand même.
C'est marrant. Ça pouvait être drôle. Ça, je te dis, des fois, je suivais parce que c'était drôle. Mais en soi, en fait, par exemple, tu vois, moi, c'est pas parce qu'il y aurait eu un titre accrocheur sur un drama ou sur lui, il a dit ça, lui, c'est pas forcément ce qui allait me faire cliquer. Tu vois, je dis, oh, vas-y, je m'en bats
les couilles. C'est plus les titres, je pense, non, les titres, les punchlines.
Non, mais voilà, moi, c'est ça. C'est est-ce que le morceau, il est bon? Moi, c'est est-ce que le morceau.
C'était la musique. T'étais pas dans l'entertainement.
Et c'est pour ça que je te dis que l'entertainement qui est autour, quand il s'agit des clashs, parce que sinon, après, l'entertainment, tu peux avoir mille facettes, mais quand tout est misé sur l'aspect clash, et c'était vraiment le but des DVD dont on parle de l'époque, pour moi, ça faisait du mal au peur. Parce qu'en fait, là-dedans, c'est des gens qui voulaient voir du drama, mais qui s'en battaient les couilles de la musique. Moi, je m'en battais les couilles de savoir qui est plus vrai que l'autre, qui va assumer, qui va pas assumer. Je m'en bats les couilles. Est-ce que le morceau, il est bon? Le morceau, il est éclaté, frère. Donc à partir de là, tu peux clasher la terre entière, c'est nul. En fait, les gens, ils vont. Moi, pour savoir si le morceau il est bon, c'est pas savoir s'il a éteint son concurrent. C'est est-ce que le morceau il est bon. Si tu l'as éteint parce que t'as mis une petite punchline sympa au milieu d'une prod dégueulasse et le reste, y a rien qui va. Bah pour moi, il y a pas d'intérêt. Il y a pas d'intérêt parce qu'il y a pas eu beaucoup de morceaux où c'est un clash de bout en bout, ouais. À part le « je t'emmerde » de Gabin. Sinon, c'était toujours un peu au détour d'une petite punch, ouais. Et puis terminé. Donc, tout le monde va focaliser sur la punch en mode bandeur. « Ah ouais, il a dit ça, il a dit ouais, mais est-ce que le morceau, il est bon ?» Moi, j'écoute le morceau, je fais « bon, ça pue, next. » Clash ou pas clash,
mais justement,
tu vois ce que je veux dire
ça, voilà. Ça, non, mais...
Et quand on focalise que sur les clashs, c'est un engrenage où les artistes, ils disent « Ok, donc le public, il est demandeur. Ouais. Donc moi, je vais glisser deux, trois petites conneries, je vais faire le cacou, nanana. » Tout ça pour que finalement, il passe chez Kersh et il n'est pas content alors que c'est lui qui a créé le bordel. Et puis les gens, ils sont demandeurs. Mais frère, vraiment, le peura, frère, j'ai vécu le peura depuis le début, je sais ce que c'est. Mais quoi qu'il arrive, c'est avant tout une musique, frère. Ouais. Donc moi, les clashs, les machins, les trucs, si ça sert la musique, je veux bien. J'ai jamais trouvé Jay-Z aussi bon que quand ils se sont embrouillés. Blueprint et Stillmatic, ouais, c'est passé un truc de fou sur ces deux albums-là. Tu voyais que là, il y avait un truc. Ouais. Mais en France, j'ai pas.
En français, est-ce que c'est arrivé une fois qu'un clash musicalement apporte vraiment quelque chose?
Non.
C'est ça pour moi, à part du divertissement.
Pour moi, musicalement, il y a un truc. Pour moi, ça a toujours servi le côté bandeur, divertissement, mais ça n'a jamais servi la musique. Et c'est en ça que les clashs m'en bat un peu les couilles.
À part 3G en vrai. Quand il y a eu 3G et qu'il a répondu un peu à tout le monde, Booba, là, c'était chaud. Mais parce que c'était pas ciblé sur une personne. C'était un morceau.
Moi, j'ai pas pris comme ça.
Pour le tirer un peu tout le monde, tu vois.
Moi, j'ai pas pris comme ça. Le 3G.
Ouais, 3G,
c'est pas. Non, j'ai pas trop pris comme ça.
C'est pas un clash, mais c'est une réponse.
C'est une réponse. Ouais, et pour le coup, musicalement, c'était chaud.
Ah, parce que tu parles de musicalement. Ouais. En fait, mais l'idée de se dire, est-ce que ça doit apporter à la. Enfin, est-ce que ça a apporté à la musique en elle-même, pile, je pense pas.
Je pense pas.
Est-ce que ça fait partie du paysage de l'entertainment général et que ça agit sur les carrières? Je pense que oui.
Mais je pense négativement.
Pour ça, je t'ai dit oui et non.
En fait, négativement, oui et non.
En fait, prenons un exemple concret.
Vas-y.
Récemment, t'as le média Interlude qui a fait une étude du clash Booba-Vald en voyant l'impact qu'il y a eu sur les ventes de Vald. Mm-hmm. Et en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un truc que moi, j'ai constaté sur plusieurs personnes où il y a eu des clashs. Après, j'ai checké la même chose et on voit c'est toujours le même fonctionnement. Quand il y a un clash, t'exposes sur tes réseaux. C'est-à-dire qu'en gros, ils montrent Vald, à chaque fois qu'il y a une réponse, ils ont fait un graphique sur 2 semaines. Mm-hmm. À chaque fois qu'il y a une réponse à Booba, ses réseaux ils explosent. Mm-hmm. Donc énormément d'abonnés, énormément de vues en story. Deuxième impact, plus faible, à chaque clash, ça augmente un peu ses vues YouTube. Mm-hmm. Comme quoi les gens ils se disent, vas-y, je connais pas trop Vald, ils sont en train de se clasher, je vais regarder, tu vois. Mm-hmm. Impact sur les streams et les ventes, 0. C'est qu'en vrai, quand il y a un clash, les gens ils vont regarder sur les réseaux. À la rigueur, ils vont regarder
YouTube. En fait, il va renégocier son partenariat Adidas, mais il fera pas un meilleur album. Tu vois ce que je veux dire?
C'est le sujet. Parce que là, en fait, Flo, je comprends, tu vois, Mire.
En fait, c'est que c'est même pas positif. Mais en fait, est-ce que t'as des gars dans leur carrière, tu te dis grâce au clash?
Parce que tu réfléchis trop long. En fait, à un moment donné, je pense, et je me mets à la place de personne, toi, tu réfléchis en data.
Mais si, est-ce que t'as des mecs où ça a aidé leur carrière? Est-ce que t'as des gars où tu dis grâce au clash?
Mais c'est pas une question de grâce.
Je pense pas.
En fait, tu vas trop loin dans ton raisonnement. Tu te.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Non, en fait, t'as rien perdu, je pense, t'as rien gagné.
D'accord.
Tu te fais attaquer, je sais pas, sur tes parents ou sur ta musique ou quelque chose qui te touche. Tu réponds, oui. Après, est-ce que tu vas en tirer quelque chose de bénéfice en termes de data? Je pense pas, là, je suis d'accord avec toi, ce sont juste des pics. Mais là, n'est pas la question. En fait, tu fais pas ça pour gagner en vente ou gagner
des followers. Mais je pense que des fois, il y a ce truc de, ouais, les clashs, ça se met dans l'actualité, c'est du business en vrai. Non,
tu parlais justement de la data et de l'impact du clash sur les streams de Vald. Mais est-ce que tu penses pas que si Vald avait sorti un morceau clash qui est sur les plateformes de streaming, il n'y aurait pas eu un impact globalement sur
ce morceau-là?
Alors sur le morceau-là, mais est-ce que derrière, ça n'aurait pas fait un effet de...
En fait, j'ai l'impression que moi, je pense que les clashs, quasiment tout le monde perd. C'est-à-dire qu'en vrai, quand j'y perds, c'est genre est-ce que dans ta carrière, ça t'a aidé? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a mis une mauvaise image ou des bâtons dans les roues? Ou alors, ça t'a fermé des portes avec d'autres artistes? Je pense que personne gagne. Parce qu'en vrai, quand tu fais un clash, il y a toujours...
Il y a des camps.
Il y a un adversaire. Donc, il y a toujours un camp qui est contre toi. Il y a des mecs externes qui ont rien à voir qui disent ouais, vas-y, je comprends pas pourquoi il se clash, c'est violent, etc. Mm-hmm. T'as ton camp qui est content quand t'as gagné. Mm-hmm. Je pense pas qu'il y a des mecs qui vont dire, ouais, je vais venir fan de ce rappeur-là parce qu'il a battu l'autre, tu vois. Mm-hmm. Tu vas pas, genre, annexer son camp.
Mais qui décrète qui a gagné?
Comment?
Tu dis, t'as un camp qui est content parce qu'il a gagné, mais qui décrète le gagnant?
En vrai, c'est
public, plus ou moins.
Par exemple, aujourd'hui,
mais non, quand tu vois parce que comme tu dis, il y a déjà les camps. Vald, il aurait fait un morceau. Ouais. Réponse à Booba, ciblé sur ça.
Mais bien sûr, il aurait streamé. Il n'y a pas toujours des gagnants.
Ça aurait fait du bruit.
Il n'y a pas de statu quo.
Je pense que c'est
ça. Ça aurait fait du bruit. Mais les rapis, ils auraient dit que le morceau, il est éteint. Les provades, ils auraient dit, oh, il a éteint Booba. Mais en fait, voilà, on n'a rien. Tu vois,
je suis d'accord. Mais il y a des cas où on se dit, il y a un gagnant. Tu vois, par exemple, les clashs, genre les gros clashs qui ont été Rof, Lafouine, Booba. En fait, sur les trois, on sait qui a gagné à la fin, tu vois.
Qui?
Booba.
Ok.
Mais c'est pas du haut clash.
Ouais, mais justement.
En global. C'est ça. C'est qu'en fait, il a gagné jusqu'au moment où les clashs a tellement terné la carrière des autres qu'à un moment, ils ont fait moins de chiffres. C'est comme ça qu'il a gagné.
Ok, mais justement, moi, ce que je constate sur les clashs, c'est que c'est pas forcément une question de morceaux, mais plus un concours de popularité aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que vous êtes pas d'accord avec ça? Parce que finalement, Booba, les morceaux, tu vois...
Les morceaux, quoi, pour moi, la foule avait gagné dans les morceaux à l'époque.
C'est pour
gagné.
Ça que je te dis ça, parce que en termes d'écriture, de clash pur, la foule, il était énervé.
C'était
mais nous...
Mais il y a le global.
Globalement, les gens étaient fans de Booba, donc TLT et AC Milan, c'était pour nous des morceaux qui étaient des morceaux club, en fait. Mmh. C'est des morceaux tu t'ambiances, en fait. C'est pas forcément des morceaux clash, mais les gens décrétaient qu'il avait gagné. Est-ce qu'à un moment donné... C'est pas juste un concours de popularité. Et si de base, ta fanbase, elle est moins grosse, eh ben, tu vas perdre.
Pas que, parce qu'il y a, faut pas s'arrêter au moment des sorties des morceaux. C'est que ça a continué. Il y a eu d'autres histoires derrière. Et sur les autres histoires, c'est là où B2O, il a gagné et que Lafouine, il a perdu, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, à l'instant présent, tu regardes les vidéos qu'on fait le plus de vues, etc. À la fin, c'est Lafouine. Son interview, c'est là qui fait le plus de vues.
Ouais.
Son morceau, Autopsie, c'est là où il fait le plus de vues.
Ouais.
Mais derrière, ça s'est pas arrêté. Et c'est sur la suite que ça a dérapé, tu vois.
Ouais.
Quand ça a sorti des dossiers, quand ça a fait des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, mais s'il n'y avait pas eu ces clashs, les dossiers, les machins. Donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, Lafouine, il serait toujours là, il serait toujours au top?
Ouais,
je pense pas que le clash ait autant d'incidence.
Et après, il y a eu d'autres éléments, mais ça a beaucoup aidé.
Chroniqueur, là, moi, je suis un peu entre vous deux, c'est que je pense pas que c'est ça qui a fait qu'on le voit moins ou qu'il soit moins actif commercialement totalement, mais ça a eu une influence.
Un influence
sinon, ça a eu une influence, c'est sûr.
C'est une influence,
en fait,
c'est sûr.
C'est un environnement
mais
global.
Pour moi, c'est minime.
Et comme disait Chris, c'est pas que le morceau. Et Flo aussi, c'est l'environnement global. C'est qu'en fait, ça joue sur la perception qu'ont les gens de toi et ça joue sur ta tête aussi, parce qu'à mon avis, peu importe clash, tu vois, c'est le mental en fait, à mon avis. C'est qu'en fait, t'es un artiste, tu te fais clasher, tu dois répondre, même à l'époque, que ça soit les quizitos cyniques, etc., tu dois répondre, faire des morceaux, trucs, etc. On t'en parle quand tu sors dehors. Et maintenant, il y a les réseaux sociaux qui créent une caisse de résonance, donc ça ne peut pas ne pas avoir d'impact, tu vois, c'est sûr et certain. Et en fait, après, ça te fait déjouer, c'est ça le truc, ça peut te faire déjouer, je pense. Quand à un moment donné, tu sens un peu que t'es en train de. Les dossiers sortent, t'es en train de perdre un peu pied, ça devient délicat.
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
Ça s'influe sur ta
vie. Mais
psychologiquement, voilà.
Psychologiquement, c'est dur.
Psychologiquement, peut-être pour l'artiste.
Et puis,
moi, je pense aussi qu'après, c'est juste, est-ce que le gars, il n'était pas à son prime à un moment et qu'après, quand il arrive.
C'est pour ça, c'est pas une France.
T'en penses quoi, toi, sur le côté un peu
concours de popularité avec les Clash.
Évidemment que ça a pris de l'impact sur que ce soit la carrière de Lafouine ou sur d'autres carrières en fait. Mais aujourd'hui, je pense que si on parle aujourd'hui des Clash, ça a plus, comme je disais, ça a plus du tout la même perception qu'avant, tu vois. La, le côté musique, pour moi, si, il y a eu des morceaux quand même mythiques, comme on disait, tu vois. C'est indéniable. Je pense que c'est ce qui fait toute la culture du rap français, en fait. Sauf ouais. qu'aujourd'hui, ça n'a plus.
Mais ouais, ça date en vrai.
Il y a les Clash avec morceaux, il y a les Clash
sans morceaux. C'est ça, sans morceaux.
Mais... les Clash, on n'a pas tant que ça non plus.
Si.
Non, mais non, pardon. Sur l'échelle de 20, 30 ans, c'est pas comme si
tu as. Sur les 10 dernières années, tu as au moins 30 Clash.
30 ?
Bah oui, large.
30 ? Ben oui, je suis pas... Non, mais après, le point,
c'est déjà, que... Déjà, Bouba, t'en fais 15.
Oh, ouais, ouais. Non, mais regarde, juste un truc aussi. Si on dit Clash, s'il y a une pique dans un morceau ou s'il y a une pique sur les réseaux, et Clash, faut vraiment... En tout cas, c'est pour ça que j'ai défini le propos, moi, tout à l'heure, quand je disais Clash court, petite pique et opposition, on va dire, et les Clash réels où c'est
parce que t'as des Clash qu'on marqué, comme Palamboss... Tu vois, il y a des trucs qui ont marqué en fait l'histoire du rap français.
Ça fait partie du jeu.
En fait, c'est parce
que c'était aussi une autre époque où ça passait par la musique et que maintenant ça passe par les réseaux. Les mecs, ils vont pas en studio enregistrer.
Ouais, mais même après, ils se répondaient sur Skyrock. Tu vois, il y avait la fille qui avait répondu après sur Skyrock. Il y avait plein de trucs.
En fait, la force de ça, c'était qu'il y avait plus de temps entre chaque moment et du coup, c'était plus institutionnalisé. Tu vois, moi, je me rappelle, j'étais à la fac à cette époque-là et le lendemain, c'était où est-ce que t'as vu la vidéo qui est sortie? Parce que c'était, t'avais une vidéo tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et encore, c'était à l'époque, c'était genre ça tirait beaucoup pour un clash. Que maintenant. En 3 secondes, t'as 30 stories dans la même journée. Tu perds pied, en fait. Tu vois, t'as plus ce côté... c'était un rendez-vous où tout le monde allait regarder, tu vois. Maintenant, ça va trop vite.
Moi, j'ai l'impression qu'avec la culture drill, ça, il y aura une petite accélération. Parce qu'en fait, on est en train d'importer toutes les dingueries UK, US, en France. Et ces artistes-là, en fait, ils vont plus lent dans leur clash, etc. De ce que j'ai observé. Maintenant,
là-bas.
Ouais, non. Les dingueries de là-bas. J'ai l'impression que ça va de plus en plus loin. Est-ce que vous en pensez... Qu'est-ce que vous en pensez globalement?
Est-ce que ça va plus loin?
Est-ce que ça va aller plus loin en France? C'est-à-dire, pour l'instant, en vrai, on est sur des morceaux ou sur des stories. Finalement, même Booba,
je pense pas que ça va aller plus loin.
C'est mis à part Lafouine, Kaaris, Rof, où il y a eu des morceaux, où il y a eu vraiment des choses qui ont été faites. En vrai, avec Vald ou même les petits trucs qu'il fait avec Nio, etc.
C'est
des stories, c'est la provocation.
C'est des vrais
clashs. Ça va plus être dans
les clashs.
Mais ça reste des clashs.
Mais est-ce que tu penses que justement avec l'AF et
comment
Paris Saint-Germain, est-ce que ça peut être...
Moi, je pense que ça va plus rester dans les réseaux.
Je pense que ça va rester, ça sera moins dans la musique.
Parce qu'ils ont trop, à perdre, en fait. Okay. Tu vois, genre, il y a des mecs, là, aujourd'hui, qui pour des histoires de clash, peut-être qu'ils vont aller en tôle. Maintenant, dans le rap français, tu vois, t'es un top vendeur, tu te retrouves en tôle pour une histoire de clash. Une story qui a
des rappeurs, tu vois. Pour un artiste, tu vois, qui est pas forcément en place, il clash un gros artiste et le single, il en fait un clip. Et le single fait 3-4 millions de vues. Et là, il commence à être booké à gauche à droite pour faire le son. Bah, peut-être qu'il y a un truc là, non?
Bah, tu vois, on prend un exemple concret là. Tu parlais de drill. En vrai, t'as un rappeur qui s'appelle Khaled Duhem qui vient de
Grigny, je crois. Grigny.
Et bah oui, il a clashé des artistes et ça a fait émerger des trucs. Mais est-ce que ça va faire que grâce à ça, ça va être la star de demain? Je suis pas sûr.
En fait, la question.
Je suis pas sûr que ce soit ça qui lui a donné la
fame.
Je suis pas sûr que ce soit ça qui a fait l'engouement vraiment de.
Quand même si, quand tu regardes, c'est le premier clip qui a marché, tu vois.
Ouais, mais je veux dire, c'est peut-être l'ambiance, tout ça. Il est pas connu pour clasher. Ce que je veux dire, pour moi, c'est pas un clash
où il y avait
des morceaux.
Après, je pense ici, il faut différencier aussi, encore une fois, parce que c'est pas la même chose pour moi. Le morceau que tu fais pour faire un peu parler de toi, mais en vrai, t'as rien contre les mecs. Et c'est pas, il y a pas de haine tenace.
Parce que sinon, c'est tous les rappeurs. Ils sont en mode ego trip.
C'est rare qu'ils disent les blases. Aussi. En vrai, là, pourquoi ça a aussi fait du bruit? En vrai, le morceau, il est bon. Et ce qui a fait du bruit aussi, c'est qu'il a cité des noms, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est super rare. Parce que le nom de mec, il dit, ouais, toi, je t'ai vu, tac, il dit jamais le nom. Lui, il est arrivé, il a dit lui. Ouais. Et c'est ça qui a fait du bruit aussi.
C'est la culture drill, du coup.
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas aussi ces codes-là? Mais quand on voit une pique, ouais, tu te dis que nanana, alors qu'en fait, vas-y, t'as rien fait nanana. C'est pas un clash.
Ah bah, si.
C'est une pique, on rigole, c'est rien.
Oui, ça. Alors, à partir du moment où c'est sur un morceau ou quoi.
Tu vois, parce que c'est d'où ce que disait Chroniqueur.
Non, ça devient un clash si en face il répond.
C'est ça.
C'est ça. S'il répond, s'il y a une histoire qui se crée, sinon.
Genre, Booba Nino l'a jamais répondu, c'est pas un clash.
Non, c'est pas un clash. Et puis.
Non.
Et puis, pour le coup, c'est resté sur les réseaux, quoi.
Ouais,
tu vois. Et
même au-delà,
c'est la provocation. C'est Booba, il est un peu dans un sport de combat après.
Exactement. Si on reprend à chaque fois, toutes les fois où il a voulu provoquer, ouais. Il est constamment en clash.
Mais justement, la question que j'aimerais bien vous poser, on va dire qu'on parle tout le temps de Booba, mais en vrai, on parle de clash, on peut pas ne pas parler de lui. Est-ce qu'il est responsable de la mauvaise ambiance dans le rap français? Je dois poser la question.
Tu penses qu'il y a une mauvaise ambiance?
Mais il n'y a pas de mauvaise ambiance.
Je pose la question.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne ambiance.
Non, mais regardez, je reprends les interviews que j'ai regardées.
Vas-y.
Dis les termes. Quand tu regardes les interviews Caris disait qu'il y avait des artistes qui ne voulaient pas faire de featuring avec lui par rapport à Booba. Il y a une scission quand même qui s'est créée. Bon, maintenant, la scission, elle est moins évidente parce que les artistes collaborent plus et ils sont moins regardants de ce qu'ils pensent.
À la Ture existait la scission.
Mais est-ce qu'elle était aussi franche?
Non, c'est parce que maintenant, ils communiquent dessus. Mais à l'époque, certaines équipes, ils ne voulaient pas se mélanger avec d'autres.
C'était quand même l'un des dominants du rap français. Quand à un moment donné Booba se clashait avec Caris, etc., Caris expliquait que c'était compliqué de travailler. Et est-ce qu'à un moment donné, quand il y a eu ça, il n'y avait pas une scission, il y avait des artistes qui avaient. Tu vois, par exemple, Damso qui explique avec Joestar, c'était compliqué de bosser, il a bossé avec lui,
et ça n'a pas créé Booba,
etc. Est-ce qu'il n'a pas créé à un moment donné une mauvaise ambiance dans le rap français pour les artistes?
Il a créé des clans. Je pense qu'il a créé un clan de t'es dans le clan Booba, 9-2-I affilié, tu ne collabores pas avec les autres. Et carrément, c'était super puissant, mais que ça l'est moins. Parce qu'il a tellement viré de mecs de ce clan-là que finalement, le clan il est moins puissant qu'avant. C'est-à-dire que tu vois, en vrai, il y avait vraiment un truc des affiliés de B2O qui ne doivent pas se mélanger. Ah, mais en vrai, tous les clashs, c'est ça. Hein. Quand tu écoutes tous les gens qui sont en embrouillé avec Booba, la raison de base, c'est se mélanger. Ouais. Là, tu vois une interview de Chai qui dit « Ouais, je suis plus signé là », et qui tourne sur TikTok, j'étais plus signé chez Booba. Parce que, et après, t'as Booba, il dit « Non, moi, je ne vais pas virer. » Je lui ai dit « On n'a plus la même vision. » Et en gros, il y avait une histoire de « Ouais, tu ne mélanges pas avec tout le monde. » La Fouine qui dit ouais à l'époque je me sens brûlé avec Booba parce qu'en fait il dit je me mélangeais. En fait tout le monde dit à la fin se mélanger parce que lui peut-être qu'il avait une vision effectivement de nous on fait une certaine musique, on a une certaine valeur en commun et que si tu sors du clan, tu sors du clan. Mmh. C'est toujours la même chose tu vois. Sauf que maintenant il y a tellement qui sont sortis du clan que bah en vrai tu peux survivre à ça tu vois.
Ouais.
Ce qui était peut-être moins le cas à un moment.
Parce que Chris quand tu dis est-ce que la mauvaise ambiance, après je reprends pas ta question mais moi je la comprends plus finalement dans ce que tu dis, est-ce que ça a créé des divisions ou ça a fait que certains feats ne se sont pas faits? Je pense que oui, c'est clairement ça. Oui. Mais de là à dire mauvaise ambiance, non.
À un moment donné, non mais regarde, un contexte simple. Il y a un showcase, il y a des artistes qui sont invités, qui sont potes avec l'artiste. T'as 10 artistes qui sont là, et t'as des artistes qui vont refuser de prendre des photos avec d'autres artistes, des artistes qui vont refuser de collaborer. Or, en temps normal, s'il n'y avait pas cet élément-là, ce boss-là qui a fait du mal, qui leur fait peur, est-ce qu'à un moment donné, ces artistes-là n'auraient pas collaboré beaucoup plus facilement?
Du coup, c'est pour ça
que ça crée une mauvaise ambiance à ce moment-là.
Mais je pense que c'est beaucoup d'autocensure.
C'est facile de dire c'est la faute de Booba. En réalité, c'est eux, ils ont leur propre conscience, ils ont envie de le faire, ils le font, c'est
pas. Ils n'obligent pas finalement.
Je pense qu'ils n'obligent pas.
Mais son aura est là.
Ouais, c'est eux qui décident de suivre ou pas.
Ah, mais en fait, à un moment donné, je pense aussi que c'est la lucidité. C'est la lucidité que eux ont, tu vois. Et au-delà de son aura, aujourd'hui, si tu pars de ce clan-là ou comme d'autres, t'es dans un clan, ça t'apporte beaucoup. Mais il y a certaines choses que tu peux peut-être pas faire. C'est comme dans une boîte. Après, avoir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, parce que peut-être des fois ça va trop loin, là, c'est ce besoin de loyauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as un clan. Tu manges avec eux, tu fais de l'argent avec eux, machin truc. Tu sais que l'autre,
qui est
la merde de l'autre, ou l'autre qui est en embrouille deux fois avec lui.
Ça, tu vas éviter de l'intelligence.
C'est de la correction.
Tu te dis, je vais pas faire un truc qui risque de me porter préjudice.
Exactement.
Mais c'est vraiment un cas particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, au contraire, il n'y a jamais eu aussi peu de temps. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment pisse.
Moi, je trouve ça très.
Tu vois, parce que, en fait, et quand tu regardes bien, les deux périodes où il y a le. À mon sens, les deux périodes où il y a eu le plus d'argent dans le rap, c'était fin des années 90. Et là, depuis 5 ans, 5-6 ans. Et sur ces deux périodes-là du rap français, bizarrement, je trouve que c'est les périodes où il y a eu le plus de connexions. Donc, à la fin des années 90, t'avais la Mafia Kianfli qui collaborait de fou avec le secteur A, avec les mecs, Expression Direct. Enfin, t'avais vraiment tout le monde se connectait, il n'y avait pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelques animosités, des cas particuliers.
Il y en a toujours. Mais,
et aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de festivals. Tu vois, les programmations, frère, tout le monde se croise. Tu vois des artistes qui n'ont rien à voir et tout. Et finalement, ça se passe très bien.
C'est vrai que finalement, quand on regarde les gros artistes qui sont en place, Damso, Leilo, Nekfeu, etc., c'est des artistes qui justement n'ont même pas cette mentale en fait. Ils viennent peut-être de là à un moment donné, mais ils n'ont pas cette mentale. Mais je regarderais plus en dessous les jeunes artistes émergents qui ont une culture différente. C'est peut-être là où les choses peuvent bouger. Je parlais tout à l'heure de la drill, etc. Moi, j'ai une question à vous poser qui est plus musicale cette fois-ci. C'est sur vos clashs favoris. Est-ce que vous avez un clash en rap français favori, parce qu'il y avait
un morceau. Mais qui est bon musicalement ou qui nous a bien fait rire?
Tu commences. Choisis ton clash préféré.
Peut-être un top 3.
Vas-y, donne-moi un top 3.
De morceaux, il y avait Kizito Cynic à l'époque. Moi, je trouve que c'était assez gaulerie, mais même si à la fin, c'est un peu allé loin parce que ça se répondait par morceaux interposés, à la radio. Donc, il y avait un entertainment autour de ça et c'est resté très musical. Enfin, en tout cas, de ce qu'on avait, de ce qui nous montrait,
c'était lourd,
très musical. Il y avait Elimo Zoxy aussi, tu vois.
Non, mais ça, c'est.
Par les vidéos interposées, parce qu'il y a trop de séquences. J'ai pas envie d'imiter.
Mais ça, c'est. On invite tout le monde à la regarder. Cette vidéo, elle est incroyable.
C'était gonnerie, parce que toi.
Genre, t'es pas bien, tu vas regarder cette vidéo, je te jure, tu rigoles.
Voilà,
bien.
Là, il parlait, l'autre, il parlait. Tu vois, j'en parlais.
Mais c'était incroyable.
C'était les premières télé-réalités pour moi.
C'était
pas
l'histoire
des objets qui ramassaient et tout, là.
C'était.
Ouais, il a ramassé des trucs.
Non, il avait une barre de fer, après, il avait une hache. Après, il a sorti un gun.
C'était génial. C'était drôle, mais c'était génial.
Ouais, mais c'était drôle.
C'était drôle, t'as regardé. Mais tu vois, regarde. Bien sûr, j'ai regardé.
On parle de moi, je
sais que tu souris derrière.
Non, non, non. Non, mais c'est des fous. J'ai un pote qui avait ça. Il est venu, on était mort de rire. On l'a vu en repeat toute l'après-midi.
Mais voilà.
Quand je voyais ça, pour moi, c'était une affiche. Je suis désolé.
Non, tu vois, c'est gollerie, c'est gollerie.
Parce que lui, il a une conscience, il a du recul.
Pour moi, je me disais, mais les gars, arrêtez, qu'est-ce que vous faites, les gars?
Mais ça fait partie du jeu, après, aussi.
Le truc, c'est que chroniqueur, il y a 60 ans,
il est plus difficile. Non, il a dit qu'il a rigolé. Donc ça veut dire que ça
t'a tapé.
Mais il a raison. Il a dit qu'il a mis replay.
Il a mis replay. Mais il y avait quand même une partie où je me disais, pour moi, quoi qu'il arrive, c'était gênant, tu vois. Je fais franchement, ouais, c'était une affiche, même au trucs. Sein des gens du truc. Pour moi, les gars, vous vous affichez. C'est
des vidéos. Quand tu filmes une embrouille, tu vois une vidéo de embrouille de base, ça, tu te dis, bon, c'est relou, tu vois, en vrai, les gars, pour moi, filmer une embrouille. Mais là, c'est des montages. Ouais, le montage,
c'était le montage, le côté. Enfin, il y avait un
truc. C'était la première télé-réalité du rap pour moi.
Je pense qu'aussi, j'aurais dit Booba Rof, parce que en soi, ça fait longtemps qu'il y avait des animosités déjà en privé, et le fait que ça pète en public, bah tout le monde assume sa position et il se passe ce qui se passe. Tu vois, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu Wesh Joulette d'abord, je crois que c'était
enfin, ça répondait peut-être à Wesh Morel.
Ouais, voilà, c'était ça d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est ça, parce qu'après entre ce qui est dit et ce qui est vrai, on saura jamais vraiment la vérité, chacun sa vérité, tu vois. Et après Booba qui revient avec AC Milan, je crois, c'est ça, qui revient avec AC Milan, alors que finalement il sort le morceau comme ça où tout le monde attendait depuis des mois qu'il réponde, il n'avait pas répondu tout de suite. Donc qu'on le veut ou non, il y a eu un avant et un après. Et un avant et un après. Et je pense en termes d'entertainment, c'est là où aussi on est rentré, parce que c'est vrai que c'est un
côté. C'est du grand spectacle. Hein.
Non, il y a eu DUC,
c'était
même
la fuite. Tout le monde venait, il y avait un combattant de
féminisme. Et c'était LF.
Et surtout aussi, il y avait, mine de rien, il y avait aussi la. Comme tu disais,
il y avait du son.
Il y avait du son. Il y avait aussi la culture de la vanne, la petite pique, les petites vannes sur les réseaux.
Oui, c'est drôle en vrai.
Ça faisait perdre du jeu. Il y a une partie qui était drôle, tu vois.
Après, ça devenait sérieux. Ça devenait
C'était plus.
Ça a dérapé.
C'est plus grave. Quand Céline a dit que ça fait partie de la culture, moi je suis d'accord. C'est qu'à un moment donné, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Il y a le côté un peu comme il dit, quand il dit, on se dit, waouh, les gars, vous abusez. Mais
ça fait partie de la life. Ça, c'est le côté humain.
Mais ce qui était bien, c'est qu'il y en avait moins et tu laissais des vidéos entre guillemets un peu classique, que là maintenant tu vas pas regarder 30 ans après des stories, tu vois.
Et c'est pas la même intensité quand tu regardes. C'est pour ça que c'est pas la même intensité. Là, c'était vraiment, tu sais, c'était les haines tenaces qui avaient été dit dans les morceaux. C'était
quand même, il y avait moins de rappeurs aussi.
C'était,
et le fait qu'il y ait moins de rappeurs, quand il y avait des confrontations, les gens se disaient, ah ouais, il essaie de me dégager peut-être. Tu vois, ok, donc ça fait
LM Zoxy, je pense, Kizito Cynic, le clash Booba Rof, je dirais.
Ok, cool. Pour le divertissement, je dirais moi je mettrais Booba, Rof, La Fouine.
Ouais.
Les trois en même temps, franchement, c'était Avengers, c'était Star Wars. Quoi,
super Smash Bros.
Ça s'arrêtait jamais. Pour la partie musique, en vrai de vrai, j'en ai déjà parlé, mais je pense que quand 3G sort, moi je trouve ça bien parce que ça répond à des polémiques. C'est pas visé vers une seule personne, tu réponds à tout le monde et tu fais un morceau, tu vois, qui a donné d'autres morceaux classiques derrière, tu vois. Et après, en troisième, plus en mode patrimoine, en vrai, les DVD de la Menace au Palais Trap, tu vois, ça c'est. Enfin, ça mélangeait tout, n'importe quoi. Mais ça, je les ai vus en reculons. Parce que tu vois, j'étais trop jeune à ce moment-là, tu vois. Mais quand je regardais ça, ça n'avait aucun sens. Soit tu regardes le truc, c'était trop drôle, tu vois. Mais ça n'avait aucun sens.
Putain, c'est ouf. Ok. Et de ce côté, chroniqueur?
Non, mais moi, franchement, frère.
Oh, c'est vrai.
Tu nous blagues. Non, mais regarde, moi, le clash qui m'a vraiment marqué, effectivement, c'était L.I.M. Zoxy. Mais en vrai, je kiffais énormément les deux. Moi, l'école Beat de Boule, c'était après l'album Héritier de la rue et tout de Mauvaise Langue. Moi, j'étais vraiment très, très, très fanatique de ces mecs-là. Et moi, voir L.I.M. dans cet état-là, là, en train de faire ces trucs, tu sais,
ça me faisait rire.
Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas besoin de ça. C'était de la surenchère. Et ça m'a fait rire parce que ça faisait rire tout le monde. Et à un moment donné, tu vois les mises en scène, les trucs. Bien sûr, t'es mort.
C'était Bob qui faisait ça en plus.
Ouais. Ah, j'ai fait une émission, il l'a dit, donc je peux le dire. Là, j'ai fait une émission avec Bob récemment, il a dit que ça, c'est lui qui l'a monté de toute pièce. Il a dit non, mais fais ci, fais ça. Sans un truc, c'était. Tu vois, là, c'était vraiment du spectacle.
Ouais. Mais il a soufflé sur des
brèves. Mais oui, en fait, mais ça, oui. C'est un concept qui est repris des US. Hein.
Donc là, je ne trahis, pas de, je trahis pas de secret. Okay. Mais en fait, tu vois, quand je voyais ça, et inconsciemment, je me. C'est comme si je le savais en vrai.
Et t'en as d'autres qui t'ont marqué, Pinker, toi ?
Après, j'ai kiffé La Fouine Booba. Parce que je trouve que quand même ça se répondait par morceaux interposés et qu'il y avait quand même de la phase, les morceaux étaient plutôt bons. Mm-hmm. Mais sinon, franchement, voilà, comme je t'ai dit, je ne suis pas du tout client des Clash. Donc j'en ai plein en tête, mais te dire c'est mon préféré, non, je m'en foutais en vrai. Je ne calculais pas. On va encore dire que je fais le puriste alors que ce n'est pas le cas. Parce que si vraiment j'étais un puriste, je serais encore en train d'écouter des Algi et la FF. Alors que c'était. Ça fait des années que j'écoute. Non, je suis pas de ces gens-là.
Je suis juste pas trop ça, quoi. T'as rigolé quand même. Ouais,
mais j'ai rigolé. Non, la batte, le bâton légendaire.
Et toi, Céline ?
Non, bah, on va pas revenir sur LIM2, c'est bon, c'est genre, il est mémorable, tu vois. Genre, jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis pas bien. Je suis capable de regarder cette vidéo, tu vois.
Ah, t'es pas bien, donc c'est gênant.
Non, je suis pas bien. Si je suis pas bien, j'ai envie de remonter le moral, franchement. C'est qui est incroyable. Et après, dans la même veine, tu vois, pour moi, Paname Boss, c'était. Tu vois, ouais, ça rentre en compte plusieurs. En plus, ça a fait après plusieurs clashs, parce qu'à la base, c'était, entre guillemets, on disait c'était la Fouine Booba, mais en réalité, après, ça a mêlé Fababy, Niro, qui était en mode, mais moi, j'étais pas au courant.
Ouais, ça,
c'est bien, ça. Donc, en fait, ça c'était génial. Il t'entendait la voix de Kirsch aussi qui disait à Niro, mais du coup, t'es au courant du morceau? Il disait, ah, mais pas du tout. Et après, il demande à Fababy, mais Niro, il disait qu'il était pas au courant. Ah bon, mais si, il était au courant. C'était génial ce moment.
La mauvaise foi est incroyable, même quand la Fouine, il dit, ouais, quand je dis j'entends ce clash partout sur les ondes, c'était pas pour toi, c'était pour Sniper, mais Sniper fait dans le clip, tu vois.
Non mais ça c'était incroyable, tu vois. Au final tu te dis mais en fait du coup c'est quoi le vrai du faux, on saura jamais. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est les meilleurs clashs, c'est quand tu sais pas au final, tu vois, ils ont tellement bien noyé le poisson.
Ouais, le côté sublime de l'époque il était drôle. Ouais. Parce qu'en fait tu citais jamais vraiment, c'était pas frontal.
Ouais. Ouais.
Donc ça faisait que des trucs, on savait très bien de qui parlait, mais il faut toujours dire et j'étais pas au courant.
C'est pas au courant.
Ouais. Ouais. Non, mais même Tunisiano, son passage était incroyable, tu vois. Il t'avait dit justement mais ah non mais pas du tout, mais attends, mais c'est pas un clash. Est-ce qu'il y a une clash dans le morceau? Non, il me clash pas, c'est juste une punchline. La punchline, on comprend bien que c'est pas pour moi.
Il était clair direct.
Non mais ça c'est des moments pour moi mythiques un peu, tu vois, enfin, qui fait partie de la culture, tu vois, du rap français, tu vois. Et quand tu t'as et du coup Paname Boss, tu le retiens pour ça,
ouais,
tu vois, et rien que pour ça c'est un morceau mythique, tu vois.
C'est un gros morceau aussi.
Le morceau était lourd.
Ouais,
en vrai, il était lourd.
Mais c'est pour ça, c'est mythique, c'est la jonction des deux, ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais, ça n'a pas toujours été le cas.
Et donc, du coup, on a La Fouine, Booba, avec plus ou moins Paname Boss,
Zoxy et Liam, voilà, tu vois, dans le podium.
Et puis c'est tout.
Et après, bon, comme tout le monde l'a dit, évidemment, il y a le Booba Rof qui a pris
des années. C'était Royal Rumble, en vrai.
Tu mets Rof, Booba et La Fouine. Ok, il y avait tout ce qui était réseau, mais en termes de musique, franchement, c'était incroyable.
Ouais, quand même.
Ok.
Mais bref. Ouais,
bon, bah, c'était une belle émission. Hein. Merci à vous. Merci au panel.
Le panel.
Merci aux chroniqueurs d'avoir dit les termes. Hein. Pour le coup, on a pas mal parlé. Alors, n'oubliez pas, les épisodes de Dis les termes sont disponibles en podcast un jour avant la vidéo YouTube. Donc, si tu veux vraiment avoir notre contenu avant que ça sorte, va sur les plateformes de streaming et tu t'abonnes à Bouscapé, en particulier à Dis les termes. Merci encore à vous, c'était super. Et n'oubliez pas de liker et de partager un maximum cette vidéo. C'était Chris Daikonik pour Bouscapé et Dis les termes. Cheers.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.